R22 tout le monde. Antenne cadiste.
Voilà, je vais vous faire visiter la maison et tout l'immeuble. Alors, vous me suivez, venez avec moi, je vous en prie. Un escalier à va-et-vient qu'on remonte facilement. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'ascenseur, mais je prévis à chaque palier des sièges naturels, du béton. Ou si on est essoufflé, on peut se permettre un petit repos avant de continuer sa petite marche. Voilà, je suis bien assis. Alors, on continue. On monte. Encore échantillon. Mais il faut que j'ouvre. On en fasse des bijoux. Il faut qu'on en fasse des bijoux. Parce que ça sera alors un modèle pour tout le monde qu'on peut valoriser chaque espace, qu'on peut améliorer chaque chose, renforcer toujours davantage la construction, hein, en ayant les soucis de tout réunir. Même les portes, les fenêtres participent à la consolidation de la maison. Que ça ne soit pas une tour pour une tour, mais une tour utilitaire, habitée et habitable, belle et qui sera illuminée avec l'énergie solaire. Vivre dans le noir comme ça, c'est comme un trou noir. Alors, il faut que ce trou noir soit un trou vraiment illuminé.
Je vous propose qu'on commence par quelque chose de très pratique. La question de savoir qui est cet homme qui fait visiter cette maison, comment vous l'avez rencontré, comment vous avez découvert cet endroit qui finalement n'est pas connu de tant de personnes que ça à Kinshasa.
Oui, c'est une tour de 12 étages, donc... Normalement, il doit être visible un peu partout dans la ville. Et pourtant, moi, je connais bien Kinshasa, j'y travaille depuis longtemps. Je ne l'avais jamais vu, en fait. C'est un copain, un ou deux, qui nous a dit un jour, tiens, je vois ça de loin quand je passe avec le bus. Et je crois que c'est intéressant d'aller voir. Et c'est ce qu'on a fait. On a frappé à la porte du monsieur qui nous a ouvert et il disait « Enfin, vous êtes là, ça fait longtemps que je vous attends. » Quelqu'un qui enfin reconnaît l'importance de mon œuvre architecturale. Et voilà. Et donc, on a filmé ça le même jour. Le jour après, bon, on l'a fait en trois takes.
C'est vrai que c'est un autre artiste parce que, évidemment, à Kinshasa, nous nous intéressions sur cette question d'urbanisme et aussi des nouvelles architectures, des nouvelles propositions privées, comme ce bâtiment justement. Et cet artiste, Patty Chindele, nous a recommandé effectivement de voir ce bâtiment, et c'était un dimanche. Et c'est dans un quartier industriel où les dépôts, enfin c'est juste le rez-de-chaussée qui est occupé, il n'y a pas des bâtiments plus élevés que ça. Et c'est quasiment le seul qui va... Dans les nouvelles propositions, il y en a d'autres qui atteignent à peine 5 étages. Et c'est le seul qui va jusqu'à 12 étages. Quoi. Et c'était un dimanche, mais du coup, c'était un peu vide la rue. Et il n'y avait personne, nous avons beau frapper. J'ai fait la première photo, mais celle qui est utilisée justement dans le livre. Mais évidemment, en voyant ces bâtiments, c'était impossible juste d'aborder la question en proposant juste cette photo. Pour nous, ça posait aussi des questions sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, qui est derrière, effectivement. Le lendemain, nous avons frappé, il n'y avait personne le dimanche, et nous sommes revenus le lundi. Et là, effectivement, comme le dit Philippe, le monsieur était très, très enthousiaste à l'idée de nous accueillir. Entre-temps, la veille, quand nous prenions de photos depuis la rue, les passants nous disaient « Mais faites attention, parce que le propriétaire, s'il vous voit, il peut vraiment poser de problèmes. » Mais sauf qu'arrivé, il était très, très enthousiaste, justement, nous faisant visiter. Et là, se poser la question de comment... comment faire des photos ou soit faire un film en voyant enfin, justement tout ce qu'il avait à dire et tout ce que ce bâtiment représentait étage par étage. Et donc nous avons, je pensais qu'il fallait trouver une bonne distance de travail avec, à la fois avec l'auteur du bâtiment et le bâtiment lui-même. Donc il fallait, dans un premier temps, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de travailler avec une caméra GoPro à mettre sur la tête. Et du coup, on aurait un niveau d'équilibre entre le docteur et le caméraman. Et à cet instant-là, c'était Philippe, justement, comme par rapport à la taille, je suis plus grand. Et je pensais que si je le filmais avec la GoPro tout en étant grand et en le regardant de haut, ça donnerait une autre lecture, en fait, par rapport à... Et du coup, je demandais à Philippe de faire le premier essai, enfin, tout en laissant le monsieur nous faire visiter, parce que dès le premier jour, il est très expressif, comme on le voit dans la vidéo. Et ça, c'était comme ça dès le premier jour qu'on a rencontré. Malheureusement, ça n'a pas marché avec la GoPro, parce qu'au bout de 4 minutes, elle s'arrêtait. Et finalement, ils avaient fait tous les 12 étages, mais nous n'avions que 4 minutes de film. Ça ne marchait pas. On lui a demandé si on pouvait revenir le jour après. Il a accepté. Nous sommes revenus le jour après. J'ai utilisé une autre caméra. Enfin, Kinshasa, il fait assez chaud comme ça. Et au bout de... Enfin, une demi-heure de tournage, la caméra était tellement... elle était chaude et la carte ne tournait plus. Et nous avons arrêté pour revenir le troisième jour et c'est, en empruntant une caméra sur place qui n'était plus du coup celle que j'avais. Et voilà, donc plus ou moins ce qu'on a travaillé.
Tu mentionnes qu'il est docteur. Alors, c'est une autofiction assez fascinante. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
On ne sait pas très bien si c'est une autofiction ou si c'est une réalité. Il se dit médecin en médecine spatiale et aéronautique. Donc, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire dans le contexte congolais. Mais on croit qu'il est à un moment, effectivement, qu'il fut médecin pour le compte de Air Zaïre, la compagnie aérienne à l'époque, et qu'il écrivait, enfin, qu'il était responsable des bulletins de santé des pilotes. Hein. Mais quelqu'un qui est vraiment fasciné par le ciel, le vertical, le transcendant. D'ailleurs, il y a aussi il a prévu une école d'aviation dans le bâtiment.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce qui va se passer aux étages différents ? Parce que c'est très, ouais. C'est très hétérogène, tout ça.
Hétérogène et non, c'est quand même un bâtiment il y a tout un programme derrière.
Ah oui, non, mais par exemple, les poètes.
Comme il est médecin, il a commencé au rez-de-chaussée avec un hôpital. Donc, il y a des cabinets pour médecins. On n'a jamais vu des patients là-bas, mais il y a 7 ou 8 cabinets. Et après, il y a un restaurant, il y a une école d'aviation qui est prévue, il y a des salles pour des avocats, pour des peintres, pour des artistes. Et donc, le plus qu'on monte, le plus que ça devient spirituel, en fait, et tout en haut, c'est un endroit où on est ensemble, on est dans le ciel, là, entre les nuages et les oiseaux. Et donc, c'est un espace de prière. Donc, il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit, et donc le bâtiment raconte ça, c'est ça la narration, je crois. Et en même temps aussi, ce désir de, comme il dit, bon, la ville c'est un trou noir, et il faut illuminer le trou, donc il faut en faire, toute la ville est dans le bâtiment, en fait, et dans cette tour qui représente la vie urbaine, un idéal de une utopie urbaine. Sans qu'on doit dépendre de la ville avec tous ses problèmes de circulation, d'électricité, etc. Donc ça devient une communauté autarctique, autonome, représentant une nouvelle forme urbaine, en quelque sorte, pour lui.
La question du trou est évidemment au centre même, non seulement de ce bâtiment, mais de toute l'analyse que vous faites ensemble, aussi bien en images, en textes, dans Suturing the City. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de cette notion?
Je pense que la notion de trou est la raison même de notre rencontre autour de ce projet, justement, dans ce sens que, par rapport à ma propre expérience ou mon vécu, je viens de Lubumbashi, qui est la seconde ville du Congo, enfin, dans le sud, et qui est plutôt une zone minière. Et en quelque sorte, enfin, dans mon travail artistique et de recherche, je suis arrivé à me questionner en fait sur l'impact de l'industrie minière, et qui m'a amené aussi à questionner justement l'existence de la ville, l'existence. Mais évidemment, une ville chaotique, parce que je la rencontre, je crois, un peu plus tard, enfin, en 78, 78, et que je suis né, mais très rapidement, avec enfin, je suis né sous le règne de Mobutu, mais vers la fin du règne de Mobutu, il s'ensuit une grande période de crise à partir des années 90, qui coïncidait avec la fin de la guerre froide. Mais du coup, il y a eu il y a eu une crise politique et économique finalement qui s'est installée du jour au lendemain, qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et je pense que dans mon travail, j'ai toujours cherché à comprendre finalement quel est ce mécanisme qui finalement au cours de l'histoire s'est répété autant à la fin au moment de l'indépendance qu'au moment au moment justement de la fin du régime de Mobutu, tout comme Kabila, ou ce qui se passe. Il y a un cycle finalement qui se met en place, que j'essaye de questionner. Mais en gros, justement, c'est comment comprendre les effets finalement de la colonisation sur cette actualité ou sur ce monde. Sur le Congo contemporain, qui fait que je m'intéresse effectivement à ça. Et avec Philippe, le point de départ, c'était effectivement la Cité du Fleuve, qui est un projet effectivement que Philippe peut très bien présenter. Mais du coup, ça fait que personnellement, je me pose des questions par rapport à ces zones d'ombre, notamment à la question de la transmission de l'histoire, enfin de la transmission juste de la mémoire collective, que ce soit pendant la période coloniale, comment ça se fait vers la période post-coloniale, et comment ces éléments finalement sont très liés et ne sont pas rompus en quelque sorte, autant que. Et en quelque sorte, oui, il y a la question du trou noir permanent dans mon travail, ou dans même ce film, finalement, il y a cette question-là. Quoi.
Une chose qui est très, très frappante dans ce film, c'est la façon dont il rejette radicalement la notion de Kinshasa comme une dystopie. Parce que toute l'image qu'on peut trouver dans les médias, dans la pop culture, mais également dans beaucoup de textes dits savants, c'est une vision de Kinshasa comme une dystopie, comme, si on veut, l'incarnation même de la dystopie urbaine. Et quelque chose qui est très très visible dans ce film, ou certainement dans le discours de la personne qui a bâti cet immeuble, c'est précisément un élément d'espoir, de lumière, de possibilité. Et ça contrecarre radicalement les images qu'on peut avoir de la ville. Cela dit, bien évidemment, c'est un bâtiment qui tombe en ruine avant même d'être terminé. Son discours porte également sur le fait que Kinshasa est ville noire. Donc c'est une question qui me paraît très très intéressante et mise en lumière par le film.
Oui. Effectivement. Non, mais je crois il y a les deux, puisque pour créer, c'est même pas une utopie, il a créé son rêve, il a construit, il a bâti. Il y a un côté, pour moi, ce qui est très touchant dans ce film, puisque en le regardant, il faut parfois y faire rire aussi. Et donc c'est très facile de le voir comme un fou, mais en même temps, c'est quand même un fou très lucide aussi, et qui arrive à construire son rêve et à le réaliser. Quelqu'un comme lui, je ne sais pas, dans une ville comme Paris ou Bruxelles, peut-être, il aurait terminé en psychiatrie. Mais là, il construit son rêve, il le bâtit et il assume. Et donc, ça devient, c'est aussi très poétique, et je trouve cette tension-là qui est très touchant, je trouve, dans le film. Mais pour le faire, il crée quand même son monde, sa ville à lui idéale. Mais pour le faire, il se distancie quand même de la ville trou qui est Kinshasa. Il ne veut plus dépendre de cette ville avec tous ses problèmes d'électricité, de circulation, enfin tous les problèmes de sécurité, etc. Et il recrée la ville dans cet immeuble-là, donc une ville verticale. Et donc il y a quand même cette distance avec la vie urbaine réelle, disons. Et ça reprend aussi les discours, de beaucoup d'architectes et d'urbanistes à Kin et ailleurs. Cette ville, bon, on peut pas l'améliorer, il faut soit l'abandonner et commencer à côté, comme la cité du fleuve, il faut juste créer une nouvelle ville à côté, ou il faut raser la ville qui existe pour en faire autre chose. Et donc, toujours ce en fait, quand même, la ville idéale, pensée comme tabula rasa, comme quelque chose qui... Un recommencement, mais pas avec ce qui est déjà là, mais en se distance, en prenant sa distance avec la réalité urbaine, en fait.
Et c'est un parallèle très, très intéressant avec cette cité du fleuve, dont vous voyez une image ici, on va y revenir dans une seconde. Il y avait juste avant une image très, très futuriste qui ressemblait plutôt à Dubaï. Ça, c'est la cité du fleuve telle qu'elle a été présentée, vendue, etc. aux investisseurs.
Dans un film de promotion 3D.
Purement hypothétique. Mais il me semble que c'est particulièrement intéressant ce parallèle que tu dessines entre d'une part, et que Samy mentionnait, entre d'une part cette tour, cette vision utopique, cette autre ville à l'intérieur de la ville qu'est cette structure, et la cité du fleuve.
Oui, en fait, ça, bon, c'est, comme il dit, c'est le trou qui nous relie, en quelque sorte, lui, avec ses mines au Katanga. Moi, j'ai longtemps travaillé dans des mines de diamants à la frontière avec l'Angola, ou dans les cimetières, donc des trous où... Et donc, il y avait ça, mais quand on a commencé à travailler, on a plutôt pensé à cette forme, la figure de la tour et la montagne aussi. Kinshasa est entouré de montagnes. Ces montagnes ont toujours joué un grand rôle important à l'époque précoloniale. C'est là où les villages étaient construits, où les chefs s'installaient, où il y avait des rites qu'on faisait, où on enterrait ses morts, etc. Quand le colonisateur est arrivé, notamment Stanley, donc cette géographie spirituelle et politique qui existait déjà a été colonisée. Les Belges ont planté leur drapeau au sommet de la colline, au sommet des montagnes. Ils ont donné un autre nom. Et donc, à partir de ces montagnes, dans le livre, on peut essayer de raconter une histoire de différentes sortes de colonisation, territorialisation, domination, à l'époque précoloniale, coloniale, aussi postcoloniale, puisque, par exemple, il y a la montagne Konzo-Ikulu. C'était vraiment un endroit très important d'un chef, le plus important du pool Malebo à l'époque. Cette montagne a été rebaptisée par les Belges et c'est devenu Leopold Hill, d'après le roi Léopold. Après l'indépendance, Mobutu a renommé Leopold Hill, c'est devenu Mont Galiema. Galiema était le nom du chef qui était là avant la colonisation. Donc tu vois qu'il y a des tranches ou des palimpsestes historiques qui, à travers ces montagnes, on pouvait raconter ça. Et puis l'image de la montagne se traduit aussi à un certain moment dans la figure du gratte-ciel ou de la tour. La première tour, je crois qu'il y a une photo quelque part, la première gratte-ciel en Afrique centrale a été construite à Léopoldville. ville en 1946. C'était 10 étages et c'était vraiment... bon, on était fiers de ça. Et le colonisateur était fier de ça puisque ça montrait que la modernité est arrivée au cœur des ténèbres, disons. Et donc, ça, c'était plutôt le point de départ, aussi avec la cité du fleuve, comment l'image, la figure de la tour, du vertical, par le biais de Dubaï et Doha, etc., est réutilisée aussi par le régime actuel pour dire, voilà, c'est ça la Nouvelle-Afrique, c'est comme ça qu'on arrivera à se réinsérer dans un monde plus globalisé, mondialisé. Et la question maintenant pour nous était aussi de voir comment ces montagnes et ces tours sont devenues en réalité des trous. Les gens, comme il le dit lui-même, la ville est conçue et pensée comme un trou et il n'y a plus de tours. Et même la cité du fleuve, en réalité, c'est une architecture très banale, suburbaine, enfin, et c'est pas du tout ces tours-là, mais les gens vivent avec des trous partout. Les trous dans les routes, les trous de ces cimetières, des tombes qui disparaissent après quelques semaines, etc. Les trous dans le corps même, les trous du temps, des trous, il y a des trous partout. Et donc comment relier trous et montagne et autour et trous. Et en fait, ça a été une construction du livre et du travail. Et ça s'est mis en place très, très tardivement, en quelque sorte. On avait les deux éléments, mais sans les penser ensemble. Et ça nous a pris beaucoup de temps ensemble et beaucoup de travail ensemble pour en faire une narration qui reliait ces deux, je crois.
Et juste qu'il faut aussi savoir, par exemple, un des points de départ, c'est aussi, même si on parle de Kinshasa, la seule planification urbaine qui a existé, elle est celle pensée à la période coloniale. Et qui, à l'époque, était pensé pour 400 000 habitants. Même pas, c'était...
Déjà en 60, les 400 000 dépassaient déjà le temps.
Et depuis, il n'y a plus jamais existé d'autres planifications urbaines. Et on est à plus de 11 millions d'habitants. Donc, et justement, autant le docteur se protège et propose sa propre proposition du fait que la ville, elle est devenue polluée, il n'y a pas moyen, enfin, il y a des trous partout, évidemment. Autant tout le discours, enfin, parce que dans l'installation de la frise avec les affiches chinoises que nous avons récupérées auprès des habitants. Parce que ça, c'est aussi une autre partie de l'histoire. Il a parlé évidemment de Dubaï, mais il y a aussi une forte présence chinoise en ce moment au Congo, et qui finalement s'est accouplée avec l'idée du précédent président du Congo, qui justement, et il y a même une pancarte qu'on montre dans cette série, où justement il propose les chantiers de la modernité, en fait. Le président, dans sa propagande, justement pour pouvoir se maintenir au pouvoir, propose une forme de modernité qui, en fait, découle des contrats justement d'exploitation en échange des services, parce que justement la Chine propose de remettre en place l'infrastructure, mais ce qui n'est pas forcément... le cas, puisque au bout de quelques jours, des trous reviennent. voilà, donc ces affiches sont entre autres aussi des produits qui apparaissent de plus en plus avec la présence chinoise. Et que, sur chaque affiche au bas, on voit très bien effectivement que le lieu de production dont on a même pu reconstituer et trouver d'où ça vient. Mais c'est, et donc, je sais pas, je crois que je me suis perdu, mais en gros.
C'est intéressant.
Donc c'est ça, c'est que autant il y a des propositions personnelles, mais autant il y a cette cité du fleuve. Enfin, je pense qu'il y a la vidéo de promotion qui est accessible sur Internet. Une fois que vous cliquez, vous vous rendez quand même compte que tous les discours qui se tiennent derrière ce nouvel aménagement, cette question de sécurité, elle va avec la protection, la séparation d'avec la ville, d'avec la surpopulation, d'avec la pauvreté. Et ça fait écho évidemment avec ce que le docteur dit aussi dans son discours, et il fait avec les moyens de bord, et ça pose des questions aussi de pouvoir monter un bâtiment comme ça sans se faire effectivement intercepter ou questionner par... Du coup, ça pose quelle est la place du cadastre, quelle est la place de...
Oui, puisqu'il il faut dire aussi, donc il a construit, c'est autoconstruit. Il a fait commencer avec un architecte, donc c'était prévu de construire un bâtiment de 3 étages. Après les 3 étages, l'architecte a dit, voilà, l'entrepreneur, on a conclu, c'est fini. Et pas question, moi je veux continuer. Il a viré l'architecte, il a continué lui-même. Donc sans plan, vraiment à fur et à mesure. Et donc il a commencé en 2003, aujourd'hui on est 2019, ça ne se terminera jamais. Il y habite avec sa femme, il y a maintenant aussi un enfant, Oscar, le roi de la tour, qui espère le père va continuer l'œuvre de son papa et terminer cette tour et en faire une bijou et quelque chose de très beau. Mais donc ça restera toujours comme ça. Ouais. Mais et après avoir publié le livre, le président Joseph Kabila a construit une autre tour dans sa ville, la Villa Sami, à Lubumbashi. Et cette tour est maintenant là. On était là lors de l'inauguration l'année passée. Et cette tour s'appelle Hypnose.
Et donc, elle est bleue.
Hein ?
Elle est bleue.
Elle est bleue, oui. Ouais. Et la nuit, elle doit être illuminée, mais on a vu marcher ça qu'une seule fois, puisque après ça a posé problème. Ouais. Et donc, mais Hypnose, donc l'esthétique de cette proposition urbaine, quand même les gens dans cette cité du fleuve, la ville qu'on est en train de construire et qui se construit petit à petit à côté de Kinshasa, il y a énormément de gens qui ont été chassés pour la construire. Mais même ceux-là se disent, bon, on sait que ça ne sera pas pour nous, on fera jamais partie de ça, mais c'est quand même beau, ça fait rêver, on est fiers d'être Congolais, un pays qui peut mettre ça en place. Donc rien que dans l'esthétique, il y a quelque chose de très captivant et qui marche aussi politiquement, tandis que la vie réelle, bien sûr, est tout à fait le contraire, et donc est fait de trous. Et donc comment penser alors le trou et cette vie réelle et l'écart qui existe entre ces images, politisées aussi, et la vie de tous les jours, et comment penser le trou comme infrastructure générique presque de la ville, en quelque sorte. Donc c'est ça aussi qu'on a essayé de faire.
Alors il y a tu mentionnais les cycles de l'utopie, hein, la création de cet espace par les Belges, ensuite Mobutu, ensuite... Et il y a une image, il y a plusieurs images qui passent en boucle, qui sont de maquettes ultra-futuristes, donc de Bodhisisek Kingeles et de Bilex. Un Bodhisisek Kingeles qui est décédé en 2015 et Bilex qui continue à œuvrer. Et je me demandais si vous pourriez nous parler des parallèles de cette espèce d'approche cyclique qui semble ramener encore et toujours dans la ville cette notion d'utopie qui est pensée chez Kingeles et chez Bilex sur le registre de la science-fiction presque, et puis tout l'aspect science-fiction qu'on peut trouver dans les politiques de Mobutu qui essayait d'envoyer des choses sur la Lune, et cette production de cette tour qui tient également quelque part de la science-fiction. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi ? On va à Lagos, on va à Douala, on va à Johannesburg. Enfin, Johannesburg est peut-être pas le meilleur exemple. Mais cette présence constante de la science-fiction me paraît très très particulière à Kinshasa. Je me demande si ça évoque quelque chose pour vous, cela, cette observation.
De la science-fiction.
Je vois d'où ça vient, ta question. Et donc, mais bien sûr, ni Kingeles, ni Bilex on pense leur œuvre ou leur travail en
termes afrofuturistes,
disons.
Pas du tout.
Je ne crois pas qu'ils ont des liens avec ces mouvements. Mais par contre, c'est quelque chose. Oui, c'est projeté, Kingeles, c'est des villes pour le troisième millénaire, c'est des villes à venir qui ne sont pas encore là, donc c'est quelque chose qui est projeté dans un avenir lointain, très souvent. Je crois que ça dit beaucoup plus de ça parle, enfin, ça c'est par rapport au temps vécu de la ville qui est un temps, la temporalité de la ville est le temps du moment. Je crois. Donc profondément, il y a très peu de gens qui, même faire le lien entre aujourd'hui et demain, et faire un planning pour ce qui va arriver demain, etc. Pour beaucoup de gens, c'est déjà difficile. Savoir ce qu'on va manger le lendemain, de savoir comment... faire un planning. Donc cet avenir est très... Donc, soit c'est très lointain, où on est dans le moment, on est enfermé dans le moment, mais faire le pont entre ce qui doit venir et aujourd'hui, il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de et donc ça fait rêver, ça mais ça se réalise pas nécessairement dans l'ici et maintenant. Et donc je crois l'attrait de ça, c'est aussi ça te transporte dans un meilleur monde, même le penser, même le dire. est déjà suffisant pour le construire en quelque sorte. En le rêvant, il existe déjà, ce monde.
Ce qui revient à la question de l'hypnose, à certains égards.
Mais il faut aussi voir ça, cette question de projection, cette question de science-fiction, aussi dans toute l'utopie aussi de la colonisation, de justement cette idée de conquête, et comment le Congo justement naît en 1885 et que Léopold n'a jamais mis le pied. Enfin, si, et finalement, les frontières, même par exemple le lieu où tu as commencé à travailler à Bandundu, enfin, les limites frontalières vont se faire jusque plus tard, jusque vers les années 22, qu'on va commencer. Entre, par exemple, les Portugais et les Belges, il va y avoir une lutte autour des questions de frontières, et ce sont des questions que nous sommes en train, entre autres, de travailler actuellement. Toutes ces frontières, elles sont poreuses, parce qu'il y a aussi des communautés, des mêmes communautés ethniques vivant des deux côtés. Et nous avons quoi ? Nous avons 9 frontières au Congo, en pensant qu'il y a toujours des gens qui sont liés au-delà de la question de ces frontières et qui s'identifient autrement. Et d'ailleurs, dans ce projet, on a aussi fait ce parallèle entre comment les personnes, justement, ou les chefs coutumiers dans ces territoires se représentent eux-mêmes ou se définissent eux-mêmes face, justement, aux propositions coloniales telles qu'elles ont été faites. Et une vidéo, justement, Pongolomé parle de ça, où il y a la question, et l'idée était très simple quand on travaillait, c'était finalement comment, à partir du regard d'un chef coutumier, remonter jusqu'à la naissance, finalement, ou à l'installation de ce qui pourrait être considéré comme royaume ou empire. Mais comment ça se conçoit du point de vue des autochtones et confronter ça avec les propositions urbaines ou les propositions justement frontalières qui sont imposées quelque part par la question de l'administration coloniale. Et je pense qu'il y a toujours eu un vrai choc, une dualité entre la construction de ces villes, de ces centres dévolués ou ces centres indigènes qui vont être créés autour de villes avec des séparations physiques qui sont assez importantes et qui sont forcément des zones de tension, les cordons sanitaires qui vont séparer les villes noires des villes... Mais tout ça se passe par une certaine violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit... Il y a une remise en question des systèmes. Mais voilà, après Mobutu... Dans son régime, on a aussi cette forme de fiction avec la question du retour à l'authenticité, qui n'en est pas une, mais qui va être une jonction en fait de différents proposition plutôt politique, mais qu'il copie en fonction de l'influence de la guerre froide, du plus offrant, du plus, tout en étant au service effectivement des Américains. Mais même les dernières élections à Kinshasa, c'est aussi une fiction, ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que c'est aussi cet espace que nous questionnons quelque part, qui pose la question de la genèse, ou alors comment repenser ces espaces-là au-delà de ses limites ou au-delà de ses injonctions coloniales ou de ses propositions-là, qui finalement, en faisant une lecture quand même de la situation politique ou des élections qui se sont passées au Congo, je me rends compte qu'il n'y a plus forcément une question de parler de décolonisation. Je pense que ces politiciens ont quelque part compris finalement ce rapport de force qui se fait avec ce milieu de pouvoir et comment ils peuvent jouer avec ça, justement. C'était assez marrant de suivre une émission justement à Lubumbashi qui parlait de la religion et où on sentait très bien que la chaîne, la RTNT ou la chaîne nationale, mettait en place tout un programme où il était question de s'attaquer aux catholiques, parce que justement, les catholiques, en les liant à la question coloniale, parce que c'était des missionnaires, c'est eux qui ont travaillé de main mise avec les Belges, que justement, puisque c'est eux qui ont mis des observateurs par rapport au poste de. Au bureau d'élection qui était les bureaux électoraux qui étaient prévus dans les villes et qui avaient observé justement toute la magouille telle qu'elle s'était passée. Et évidemment, il fallait détruire cette proposition-là. Et il y a tout un agencement, il y a eu tout un agencement en fait d'émissions autour de la présence catholique liée à l'histoire coloniale et comment justement l'Église a joué un rôle d'aliénation et de. Mais je pense que c'est des gens qui, au besoin, utilisent l'histoire, changent, contournent, et qui sont assez intéressantes.
Est-ce que ça serait possible de revenir avec le PowerPoint sur une des images? J'aimerais bien que tu parlais de la question du cordon sanitaire et de l'imaginaire de la ville propre, séparée, etc. Il y a une œuvre en particulier, bien sûr, qui voilà, exactement,
ouais,
qui parle tout à fait de ça. Et si tu pouvais nous en
voilà.
En fait, il y a une normalement l'installation, enfin la pièce, elle est composée de 12 photos plus une image d'archive plus un texte, un manifeste de l'urbanisme au Katanga datant des années 31. Mais pour moi, justement, tout le travail a commencé en découvrant dans les archives de l'industrie minière qui justement vers les années 90 va connaître une crise à la fois financière et toutes les infrastructures vont être démolies progressivement parce que autant Mobutu va favoriser aussi le commerce de mitraille, c'est-à-dire récupérer tout ce qu'il y a comme matériel et le revendre dans un second marché, dans le marché informel. Et ainsi, en visitant l'industrie minière, je découvrais des images d'archives qui me projetaient finalement dans un passé qui ne m'a pas été transmis, qui n'a pas été transmis à plusieurs de ma génération, parce que ça ne s'apprend pas. L'histoire coloniale ne s'apprend pas forcément. Mais est-il que la photo, elle est toute simple, c'est deux personnages assis. Pas côte à côte, il y a une pile au milieu. Enfin, en tournant l'image d'archives, en fait, c'est mentionné comme légende, justement pour des questions sanitaires. Il était demandé aux ouvriers de la Gécamine, donc de l'industrie minière, d'attraper 50 mouches à la cantine chaque jour pour avoir le repas quotidien. En fait. C'était très très difficile de comprendre l'image entre et justement la photo présentait deux noirs assis l'un à côté de l'autre avec une pile de mouches justement derrière, enfin entre eux, et à l'arrière-plan il y a une pancarte effectivement qui réécrit la même chose qui est en fait qui se trouve sur le dos de l'image d'archives. Dès le départ c'était très difficile d'aborder cette image autant enfin dans son rapport documentaire, mais aussi tout ce qu'elle racontait, et la disposition, la mise en scène. J'ai gardé l'image, enfin la photo d'archive pendant 7 ans, avant de réunir les autres informations qui me permettraient finalement de travailler dessus. Après, ça restait, c'est une image aussi qui reste et qui trotte. Mais ça, c'est aussi une partie de mon travail, parce que oui, j'accumule, je collecte des images, mais ce n'est pas tout de suite que je travaille dessus. C'est fonction aussi des projets. Plus tard, évidemment, non seulement je travaille pendant un certain temps avec un historien d'architecture coloniale, Johan Lagué, avec lequel nous faisons tout un travail de patrimoine industriel et architectural colonial à Lubumbashi. Et là, je comprends plus ou moins le mécanisme de l'urbanisme et justement la question de séparation par ce cordon sanitaire qui, finalement, d'après le manifeste d'urbanisme, le dit très clairement que les Noirs vont être séparés des Blancs pour des raisons, encore une fois, d'hygiène, sur une distance d'environ 500 mètres réfléchie sur base du vol d'un moustique. Et le propos, c'est comment éviter que le noir contamine par la malaria ou que le moustique qui aura piqué le noir traverse. Il y a d'autres plans en fait qui montrent justement que avant, mais ça va être construit vers 1920, cette idée de séparation. Mais plus tard, j'ai découvert aussi des images de planification qui montraient finalement cet espace qui va être construit, cet espace physique qui va être, était d'abord autrefois un espace où les entrepreneurs et les ouvriers habitaient côte à côte, mais qu'on va effectivement éradiquer cet espace-là, déposséder les gens, ou les réinstaller. Et on va établir un hôpital entre la zone neutre pour noirs, justement, avant qu'ils ne rentrent dans la ville. Et au départ, l'idée de l'hôpital, c'était qu'il puisse être le point commun entre les Blancs et les Noirs. Mais au moment de la construction, on va se dire, il va rester là et on va construire un autre hôpital pour Blancs dans la ville de Blancs. Et donc, je vais au musée national de Lubumbashi, et dans le département d'entomologie, je retrouve en fait toutes les mouches qui ont été justement collectées, les mouches et les moustiques qui ont été collectées depuis les années 20, au moment justement de l'émission de cette idée d'hygiène, de cordon sanitaire, de séparation raciale. Donc ce travail, justement, consiste à questionner cet espace qui, à la base, est pensé comme un espace ségrégué, un espace de non-rencontre, un espace... Et ce mécanisme reste très présent dans la ville. C'est vrai qu'il y a des constructions comme la tour, tout ce qu'on vient de voir, mais dans cette zone, finalement, c'est des petites bicoques, ou alors dans son extension, la ville, même alors qu'elle essaye d'imiter ce qui est resté comme squelette, en fait, d'une proposition coloniale, n'empêche, il y a un chaos qui se crée, qui devient finalement une forme de métaphore d'une aliénation qu'on tend à vouloir rattraper, finalement, cet espace de gestion, cet espace... donc c'est ce travail, en fait.
Et c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure par rapport à la Cité du Fleuve, qui est quand même construite pour précisément avoir effectivement un cordon sanitaire
à l'abri
du chaos, et ça ne marche pas du tout.
Non, ça ne marche pas. Puisque, dès que la proposition de la Cité du Fleuve était effectivement, ça reprenait un peu le modèle ségrégationniste colonial, comme il a expliqué, et qui finalement, en termes de politiquement parlant, marchait très bien. Il y avait la ville, la cité, les blancs, tout le monde avait. Il y avait vraiment ségrégation en termes de race, aussi en termes de entre hommes et femmes. La ville était quand même un endroit très masculin, où jusque dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une femme pour trois hommes. Donc c'était des endroits d'hommes. Et donc ces ségrégations, on rejoue ça dans la Cité du Fleuve. Hein, c'est ça la vraie ville. Ça sera la nouvelle ville. La ville existante sera la cité, la ville périphérique qu'on peut laisser et abandonner en quelque sorte. Et donc, au même moment que ça rejoue cette idée moderniste à la, Corbusier, Le Corbusier, au Niemeyer, comme dans Chanagar ou Brasilia, on recommence une nouvelle ville à côté. Hein, mais dans ces modèles modernistes, c'était des modèles inclusifs quand même. Il y avait, même si par après c'est devenu autre chose, à Brasilia par exemple, mais au début c'était pensé pour tout le monde, toutes les classes sociales étaient représentées dans cet espace. Ici, non. Donc on s'en fout. En quelque sorte, ça sera une ville pour les élites, pour les riches, etc. Et donc la propagande ou le management de la Cité du Fleuve fait, c'est venez acheter chez nous, venez vivre chez nous, puisqu'il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de litige foncier, on aura pas à traiter avec tous les problèmes que la ville pose. Mais en réalité, dès qu'ils se sont installés, bon, il y a eu des gens, les chefs de terre, les pêcheurs, les paysans qu'on a chassés pour pouvoir construire cette ville. Eux, bien sûr, on dit, mais écoute, c'est notre espace. Donc, la première année, il y avait déjà 50 procès contre la Cité du Fleuve. Et tu sens tout de suite comment se mettre à l'abri de la vraie ville, c'est impossible. Dès qu'on commence à construire, il faut la prendre en compte. Et on est confronté à cette réalité qui est beaucoup trop, plus forte que n'importe quelle nouvelle vision qu'on peut avoir. Et donc voilà. Et donc cette ville qui vient tomber du ciel, littéralement, ces modèles néolibéralistes aussi financés par des capitaux à risque, etc. Dès que ça se met en place quelque part, on est confronté à cette réalité et on se retrouve dans le marais, littéralement, dans leur cas, de la ville, en fait.
Et alors, comment est-ce que ce travail que vous avez fait ensemble, qui est quand même un travail de longue haleine, comment est-ce qu'il s'articule à d'autres projets que vous avez faits, soit par le passé, notamment au Ghana, mais aussi des projets que vous faites actuellement, que vous imaginez parce que je sais que, par exemple, vous passez du profondément urbain, de l'ultra-urbain, à quelque chose qui l'est beaucoup moins. Maintenant, alors comment est-ce que tout ça s'articule, puisque finalement cette question du trou, des ressources, revient de façon tout à fait cyclique dans votre travail, quel que soit le projet.
Là, le projet actuel, mais peut-être c'est toi qui doit en dire quelque chose, parce que c'est toi qui l'as initié.
Je pense que, de manière générale, et comme je l'ai dit depuis le départ, mon travail tourne autour d'une expérience personnelle, même alors que j'arrive à trouver des dispositifs qui me permettent de me distancer ou de ne pas parler, finalement, de ma personne ou d'être en avant-plan. Mais autant la question, par exemple, dans la série Mémoire, que je pose en détourant, finalement, toutes ces personnes, toute cette main-d'œuvre qu'on déporte et qu'on va intégrer dans les mines pour pouvoir faire une production, Autant au moment de l'entrée dans les mines, ces personnes sont enregistrées et sont typées, enfin, et ethnicisées en quelque sorte. Et c'est assez impressionnant parce que quand on regarde même par exemple, la première cité indigène au Katanga, les noms des rues vont porter finalement les noms des ethnies. Et ça, c'est une planification aussi qui, dans le fond politique et psychologique, c'est de créer cette identité ethnique au détriment d'une communauté finalement qui se crée pour une production de masse au profit de l'extraction et de l'intérêt, finalement, de la colonie et des colonisateurs. Mais en détourant ces images d'archives, même alors que j'ai conscience des informations premières, justement, qui tend à typer ou à rendre des typologies qui revient à une forme d'observation, une forme d'identification, c'est dont j'essaie de parler dans ce travail, c'est finalement comment cette séparation, cette idée d'ethnie crée finalement plus de conflits aujourd'hui. Parce que, pour revenir encore vers la question, par exemple, des élections récentes, les gens n'élisent pas d'après le plan politique d'un parti politique. Ils élisent beaucoup plus sous influence de l'ethnie du politicien et comment les gens se reconnaissent, s'identifient en fait par rapport. Mais quand on regarde dans l'histoire justement coloniale, tout va se mettre là, c'est que toute l'idée justement des cartes, c'était quoi ces cartes de santé qui permettaient, enfin, à plus de 30 km on devait avoir une carte de sanitaire qui nous permettait en fait de partir d'un coin à un autre. C'était une manière de contrôler, une manière justement de séparer. Et donc ce travail, par exemple, sur la Gécamines, justement, part de cette histoire, parce que justement vers les années 90, la question ethnique, autant à la fin de la colonisation, la question ethnique surgit. Donc on aura les Mulele, on aura Tshombe, qui va être le chef, le président du Katanga. Et le Katanga va être un État indépendant du Congo pendant 4 ans. Toute cette création se base autour d'une identité katangaise, finalement, qui est aussi construite, finalement, autour des mines. Mais autant les frontières à l'intérieur du pays séparent forcément les différentes communautés. Et en 65, on sent effectivement un éclatement et des mouvements, enfin une sécession et des conflits ethniques qui se font voir, qui voient le jour en fait. Autant vers les années 90, la même chose se répète entre Kassaïens, Katangais, ou des formulations en fait ethniques derrière lesquelles les personnes se retrouvent, et Mobutu crée cette situation-là, et les politiciens créent aussi cette situation-là. Et donc c'est une stratégie de... Et donc le projet sur lequel nous travaillons, évidemment, ça part effectivement de cette expérience des années 90, et la question de comprendre cette identité katangaise, comment elle est construite, et finalement comment elle s'est construite autour de l'industrie minière, et comment l'industrie minière va justement mettre en place un État, et mettre en place une armée, et cette armée qui, après ce moment de sécession, va finalement se retrouver en Angola, puisque pour la plupart, de communautés Lunda pouvaient se retrouver au niveau linguistique avec les autres frères Lunda étant de l'autre côté de l'Angola. Mais une fois en Angola, ils vont se former plutôt en forme de milice au service de Salazar, qui va être justement, parce que c'est le pouvoir portugais à ce moment-là, c'est la colonisation portugaise, et comment les Portugais vont justement utiliser cette armée pour pouvoir contrecarrer tous les mouvements indépendantistes qui vont se créer, qui tendent aussi à se mettre en place au niveau de l'Angola. Et donc, tout le projet, pour l'instant, c'est comment, justement, il y a d'une part une construction autour d'une idée d'extraction et voir ces frontières entre le Congo et l'Angola, pour questionner, évidemment, les frontières, comme je le disais tout à l'heure, que finalement, ces frontières, c'est beaucoup plus tard que ça, qu'on le pense, qu'elles vont finalement s'installer
donc,
après des négociations. Mmh. Ouais.
Et donc, très concrètement, en fait, on part de... le point de départ a été un immeuble, un hôtel qui appartenait au père de Samy et son oncle. Et cet hôtel, qui était un hôtel très connu à Kolwezi, qui est maintenant en ruine, permet de raconter en fait l'histoire politique postcoloniale de cette région du Katanga. Donc en 77-78, il y a eu des 77-78, il y a eu des deux guerres qui sont passées par là. Mobutu en a fait son quartier général. Après, les rebelles sont venus, ils ont tué 200 expatriés là-bas. En 91, on a chassé tous les Kasaïens du Katanga vers cet endroit-là pour après les mettre sur les trains direction Kasaï. Et donc, à partir de cet hôtel, ça a été le point de départ. Et donc là, tu peux commencer à te poser la question, mais c'est quoi, qu'est-ce qui fait que ces violences sont créées et recréées et en fait, il y a aussi un imaginaire politique. Lunda, comme il l'a dit, donc c'est parmi les grands royaumes de la savane, des royaumes précoloniales, et comment ces imaginaires politiques continuent à avoir leur effet actuellement dans la vie de tous les jours et politiquement aussi. Et donc, et moi, ça m'a intéressé de faire partie de ce projet parce que quand j'ai commencé à travailler au Congo, qui fut encore le Zaïre à l'époque, en 87, maintenant je suis un anthropologue de l'urbain, mais j'ai quand même commencé pendant plusieurs années à travailler dans un milieu de village très rural, une communauté villageoise, à la frontière avec entre le Congo et l'Angola, dans un milieu Lunda, effectivement. Donc ce grand empire très expansionniste aussi, et qui existe en quelque sorte encore sous des formes plus actuelles, mais... Et donc de relier, de comment c'est passé, très souvent imaginaire aussi, et imaginer comment ils continuent à exercer leur influence sur ce qui se passe actuellement, politiquement parlant, mais aussi culturellement, sur des questions identitaires, et comment la frontière entre l'Angola et le Congo, a coupé en deux cet empire et ces mondes qui étaient liés. Et donc, c'est sur ça qu'on veut travailler aussi, et la notion de frontière qui s'est ajoutée par après, et qui a aussi changé le cours de l'histoire, en quelque sorte, tout en laissant la possibilité de continuer ces histoires du passé. Et comme Samy l'a dit, donc ces rebelles des années 60, 70, 80, les gens d'armée katangais qui aujourd'hui vivent encore dans des camps de réfugiés en Angola, toujours avec l'idée de revenir au Congo, de reprendre le pouvoir, etc. Et comment comprendre tout cela? Donc ça, on a déjà fait quelques mois ensemble autour de la question et au Katanga, mais aussi dans des archives à Lisbonne. Donc c'est juste une question aussi de construire ces histoires multiples et très très complexes. On n'a pas encore le pitch, je crois, pour le faire. On ne sait pas encore très bien sur quoi on travaille, mais c'est autour de ces questions-là. Et je trouve, pour revenir à ta question entre l'urbain et le rural, on s'éloigne un peu de la ville en le faisant. Je crois que c'est très bien aussi parce qu'on a tendance... un endroit comme Kinshasa aujourd'hui, il y a énormément de chercheurs et des gens qui s'intéressent à ce laboratoire urbain, etc. Il n'y a plus personne qui sait ce qui se passe dans ce vaste interland, l'intérieur du pays, ce monde rural. Et j'ai vraiment envie de revenir dans mon histoire à moi, sur mes premiers amours, en quelque sorte, cette vie du village. Je me dis, la ville, quand on sait que c'est 12 millions d'habitants à Kinshasa aujourd'hui, 75% de cette ville a moins de 25 ans. Donc c'est aussi une masse énorme de jeunes. Moi, par contre, je vieillis, Et je dis, la ville, it's no country for old men. Il est temps peut-être de ce qui se mettait en place de manière naturelle il y a 10, 15, 20 ans, se fait plus. Ces jeunes ne vont plus sortir avec moi, sortir avec ton grand-père, c'est pas si... Donc il y a aussi... Mais en dehors de ça, je crois que c'est très important de faire ce lien avec le RUA, puisque si on veut comprendre quelque chose de ce pays, il faut quand même commencer par là. Pour une partie très importante, je crois, la ville continue à être formée à travers ce rural, à travers aussi des logiques précoloniales très souvent. Le rôle des chefs de terre à Kinshasa, même s'ils sont invisibles ou qu'ils n'existent pas pour l'État, mais ils sont là. Et tout le monde doit passer par eux, même s'ils ne sont pas reconnus en tant que fonctionnaires d'État, etc. Donc ils continuent, et eux, ils vendent, ils donnent des terres, mais selon une logique qui n'a rien d'urbain, qui n'a rien de moderne, qui s'est basé sur autre chose. Et donc le rural est toujours une source pour la ville. Et je l'ai très bien senti dans mon propre trajectoire. J'ai commencé dans ce village pendant quelques années. C'est un peu par hasard que je me suis éloigné de cela, parce qu'il y avait un trafic de diamants à l'époque où il y avait encore la guerre en Angola. Il y avait énormément de jeunes Congolais qui traversaient la frontière pour aller chercher le diamant, le dollar en Angola. Et donc j'ai commencé à les suivre à partir de la frontière quand ils rentraient dans leur quartier, dans leur rue, dans des villes secondaires, Kikuit, mais aussi à Kinshasa. Et donc c'est ça qui m'a amené à la ville. Et je me suis souvent dit par après que ça a été une chance pour moi de découvrir la ville comme le font beaucoup de Congolais, à partir du village. Et ça te donne une autre grille de lecture de la ville. D'autres points, d'autres liens, d'autres... on sait par où on commence et par où s'insérer dans cette ville, et on la lit d'une autre manière. Et donc on a tendance de penser la ville comme, ouais, c'est le hardcore de la modernité, disons, peut-être pas encore tout à fait terminé dans la périphérie, mais c'est pas comme ça du tout. C'est le rural qui à chaque fois, même au centre, au cœur même de la ville, s'impose et dirige beaucoup qui crée beaucoup de rythme spatial, en termes de temporalité, de la ville et de la vie urbaine. Et donc, ce projet-là, pour moi, c'est aussi de faire ce lien entre la ville et tout ce qui entoure la ville et qui forme la ville. Mais très souvent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a plus aucune idée. Et nous, les anthropologues, si je me définis comme anthropologue, on a toujours été si bien... L'anthropologue allait au village. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun, puisqu'il n'y a pas de frigo, c'est quand même pas si facile que ça. Mais je crois qu'il est grand temps qu'on fasse à nouveau cet exercice-là, et pour mieux comprendre aussi la vie.
Il faut aussi se dire qu'il y a cette partie d'étudier le Congo, ou cette partie où comment les identités se font, tant au niveau de la mythologie, que ça va s'appliquer sur le pouvoir, que ça va constituer une certaine harmonie, qui va créer une communauté, qui va s'identifier, dont les individus vont s'identifier, jusqu'à mettre en place une politique dans ce monde moderne. Mais il y a aussi un volet plus global, quand on essaye aussi de regarder toutes ces guerres, comment elles vont se faire. Ben, elles se font aussi pendant une période de guerre froide. Et il faut voir aussi comment la politique internationale, finalement, agit ou justement déstabilise aussi ces formes rurales, ces formes de pensée, ces formes de politique, et comment il y a aussi finalement des propositions qui se vivent ou qui se gèrent au niveau qui sont représentées par ces tensions qu'on voit dans la ville, cette ville à trous ou spirituelle, ou ainsi de suite. Donc ça part du plus petit vers une observation beaucoup plus large, plus mondiale, en fait.
J'aurais des tas de questions que j'explorerai avec vous plus tard de façon plus globale. Est-ce que ça n'est pas un juste retour qui demanderait qu'on repense radicalement la façon dont on a pensé les villes en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord dans les années 2000, et qui demande non seulement aussi bien dans la recherche que dans la représentation artistique. Il y a eu cette espèce d'engouement pour la ville comme le sujet, le summum de la réflexion, et en fait on se rend compte que ça ne tient pas du tout la route, que c'est un regard très très européen centré. Et donc
oui,
ça c'est
absolument.
une question qu'il faudra...
profondément convaincu. Ouais.
On va arrêter là, on va ouvrir à la salle si vous êtes d'accord et à vos questions.
J'aurais peut-être une question sur le point de départ de votre collaboration. D'où vient l'envie pour un artiste d'aller collaborer avec un anthropologue, et pour un anthropologue, quel est le plus de travailler aussi avec un artiste, ou le moins d'ailleurs?
Lui devient anthropologue aussi.
Ben, Philippe Bois, je crois que c'est 2005 qu'on s'est rencontrés, visiblement, mais via une photographe avec laquelle Philippe a travaillé, Marie-Françoise Plissard, avec laquelle ils ont fait un livre, Kinshasa, la ville invisible, qui, moi, justement, en travaillant sur la série Mémoire, donc la série sur la Jikami, je m'étais inspiré notamment d'un des passages où Philippe parlait de la question de la gestion de corps pendant la période coloniale, et comment justement la mission coloniale tendait à former, à créer en fait des automates pour l'emploi, pour l'extraction minière. Et finalement, voilà, ce projet, on se rencontre un peu plus tard encore en Belgique, mais le projet de point de départ, ça a été la Cité du Fleuve, et je crois que j'étais en ce moment-là, en menant des recherches, j'avais même été jusqu'à en résidence dans l'espace artistique ici en France, à Arc-et-Senans, où je m'intéressais justement à ces projets utopiques de ville, toujours dans la démarche de comprendre, en fait. Et pendant que je faisais des recherches pour comprendre toutes les propositions j'ai oublié le nom encore de l'architecte, mais je faisais écho avec la Cité du Fleuve, en fait. Et pendant une soirée, on s'est retrouvé avec Philippe, on s'est mis à parler. Et lui avait déjà aussi, de son côté, amorcé des projets autour de la Cité du Fleuve. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre ça ensemble, d'autant plus qu'à Lubumbashi, il y a aussi, comme on l'a dit, la question coloniale, elle est aussi un peu utopique. Quoi. Donc partir de ça et commencer à trouver des points, autant qui se trouvent déjà dans la démarche de Philippe, et dans ma démarche aussi, et trouver des lieux, autant au niveau de Lubumbashi, de Fungurume, que de Kinshasa. Moi, c'est Philippe qui m'a fait connaître Kinshasa. Enfin, je le dis toujours, je suis congolais, mais c'est finalement traverser Kinshasa et voir Kinshasa.
Lui, il m'a fait connaître Lubumbashi, donc.
C'est normal.
C'est réciprocité. Mais donc il y a ça, je crois, au début, dans notre collaboration à nous. J'en ai fait plein d'autres avec d'autres personnes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est toujours un risque à prendre aussi. Mais je crois ce qui est important, c'est d'avoir... nous, on partageait un même intérêt, la vie urbaine, l'avenir de la ville, la vision utopique de la ville, etc. Donc quelque chose qui nous liait. Aussi en termes de pensée, de réflexion. Mais en dehors de ça, je crois... moi, j'ai toujours eu l'impression qu'écrire sur la ville, ma plume à moi, ne me suffisait pas. Il fallait autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec Marie-Françoise Plissard. Pour raconter la ville, il faut aussi l'image. Photo et ville, ça va ensemble. Il n'y aurait pas eu de photographie sans ville, sans doute, mais il n'y aurait pas non plus eu la ville comme on la voit dans nos têtes à nous, sans photographe. Ces deux vont de pair. Et et pendant longtemps, je cherchais un moyen pour traduire ce côté, enfin, réflexion théorique, etc., et la vie urbaine de tous les jours, le côté aussi affectif, émotionnel, sentimental, les bruits, les sons, tout ça. Et la photographie aussi, le film, le vidéo, me permettait d'écrire d'une autre manière ou d'incorporer une autre dimension à mon écriture. Et donc, il y avait cette ouverture vers l'artistique, disons. Mais lui aussi, je crois, tout en étant artiste et photographe, etc., mais il y avait toujours aussi un penchant vers la recherche, les archives. Et donc, les deux se retrouvaient très facilement entre nous deux.
Est-ce que vous parfois intervenez dans la forme que va prendre l'œuvre ?
Ben, tout ce qu'on a.
Alors, ben, je pense plutôt que, par exemple, pour le film, The Tower, à la fois il y a des questions techniques où justement je prends le cadre où je vois comment je peux effectivement restituer la chose, mais au moment du montage, on est ensemble, effectivement, on discute sur est-ce qu'il faut, parce que là c'était est-ce qu'on fait d'autres plans, est-ce qu'on ajoute des plans, mais ou est-ce qu'on est dans un processus de portrait ou pas, qu'est-ce que finalement nous donnons en fait à voir, à penser. Ça, c'est des décisions qu'on prend, qui sont force de l'expérience et du chemin qu'on fait ensemble.
Il faut savoir aussi donc toute cette production et le texte et les photos ou le film. Bon, ça a été produit. On a fait du terrain pendant des mois ensemble. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble aussi. Parfois, je crois que je le vois plus que ma propre femme. mais ça veut dire aussi qu'on commence à penser ensemble. Et donc, oui, et on construit cette narration. Par exemple, sur le projet actuel, on ne sait pas encore très bien quelle forme il va prendre, mais parce qu'on est à deux, on parle de toutes ces histoires du passé qui reviennent dans le présent, ces palimpsestes, etc. Et puis, on traverse ce paysage de Lualaba, enfin, le paysage katangais, et il y a des termitières partout. Des structures énormes, énormément beaux aussi, des cathédrales et c'est parce qu'on est là ensemble et on n'a pas pensé à ça auparavant, mais on s'est dit, mais il y a quelque chose, c'est quand même beau, c'est juste beau aussi, mais aussi on peut penser l'histoire de cet ermite qui ramène la terre du plus profond vers en haut, et donc toutes ces histoires aussi qui reviennent et qui prennent forme dans le présent. Bon, parce qu'on est ensemble, on peut le prendre ça comme figure, comme métaphore pour parler d'autre chose, et ça se construit de manière très spontané aussi, très
organique. Après, on recherche notamment la question des termitières, c'est que ça ne s'arrête pas au fait que, évidemment, on commence à photographier parce que c'est beau, parce que c'est impressionnant. Après, on s'intéresse à la vie, mais en même temps, on se rend aussi compte que tous les villages, justement, la première brique ou la brique qui se fait au village, elle vient des termitières, en fait, parce que la terre, cette terre-là, elle est déjà transformée et du coup, elle est résistante. Et donc, les villages, finalement, se construisent autour des termitières. Et là, il y a une histoire qui commence à sortir. Comment on commence à travailler avec ça et faire référence ou faire écho avec ce qui se passe avec la ville. Donc, c'est des réflexions qu'on agence, en fait.
C'est quelque chose qui se voit aussi, me semble, dans les expositions que vous montez ensemble et dans le livre lui-même. Parce qu'une des très grandes forces, aussi bien de l'exposition que j'ai vue au Vils, mais pas au Power Plant, et du livre, c'est qu'il n'y a pas de notice, il y a une espèce de... de lien très organique entre le texte et l'image, qui n'est pas du tout caractéristique du livre de recherche d'une part et de l'exposition d'art contemporain d'autre part. Et on voit vraiment là qu'il y a, si vous pouviez nous parler un peu plus de comment est-ce que ça se, par exemple pour une exposition ou pour le livre, comment est-ce que vous travaillez ce lien entre texte et image.
La question est justement là, comment éviter que le texte est simplement un petit commentaire sur les photos, ou la photo simplement une illustration d'une pensée dans le texte. C'est pas comme ça. Donc on, les deux ont été créés et pensés et ensemble. Je crois, enfin, pour que ça marche, fonctionne bien, il faut le faire. Il faut le faire ensemble aussi, aussi bien dans le. Oui. Sur le terrain même et vivre ça dans son corps et puisque sinon ça c'est un exercice qui n'est pas très intéressant, je crois.
Il y a une série par exemple en écho justement à ce que Philippe dit, que ça passe par des conversations et après c'est comment chacun à son niveau écrit ou capture finalement ce qui émane de ces échanges que nous avons. Un cas notamment dont Philippe a parlé tout à l'heure, c'est la question des chefs des terres. Parce qu'il faut savoir que les communes finalement qui sont à Kinshasa sont nommées d'après les chefs des terres, parce que ce sont les chefs des terres qui justement cèdent ou revendent la terre aux habitants qui viennent de l'intérieur. Et c'est comme ça que les villes s'agrandissent normalement ou s'étendent. Et donc, une autre manière, par exemple, de considérer la ville ou de faire une cartographie de la ville, autant que je l'ai faite avec la question des mouches et des moustiques, c'était évidemment de rencontrer chaque chef de terre de Kinshasa, dont la commune porte le nom ou on en porte le nom, et de faire des portraits. Et donc, il y a, dans l'exposition, par exemple, il y a une série de portraits, justement, parce que à la fois, c'est vrai que c'est des chefs de terre qui vendent continuellement les terres, et finalement, se retrouvent entourés d'une population qui ne leur cède pas, enfin, qui ne respecte pas forcément le pouvoir traditionnel, mais qui rend compte à la ville, parce qu'après, la ville vient prendre le dessus, et on se rend compte que ces chefs se retrouvent cernés, et finalement, ils restent les derniers détenteurs finalement, d'une histoire qui est en train de disparaître, parce que la modernité prend le dessus. Et justement, il fallait trouver un dispositif de faire ces portraits de ces chefs d'une manière assez classique, de faire des portraits en intégrant tout le background qui est très important, qui donne effectivement toute la dimension moderne, autant le côté vestimentaire renvoie à la question traditionnelle, tout en ayant aussi les médaillons qui étaient donnés par Stanley et tous les premiers coloniaux qui passaient et qui possédaient finalement ces terres, et que finalement ces médaillons deviennent des signes finalement de pouvoir traditionnel quelque part de ce chef. Et donc c'est des images simples, mais du coup il y a plusieurs niveaux de lecture, mais qui sont en fonction effectivement de tout ce travail de se dire bon, on va faire ça, et c'est une forme de cartographie, mais a priori qu'on verrait plutôt comme juste des simples portraits, quoi.
On appelle ça des oui, vas-y, allez-y.
Le mur de l'étang dans la diapositive, c'est quelque chose. Il est comme tordu, en train de arrêter les plantes qui sont en train de pousser derrière lui. Mais aussi, il a été cassé pour que la ville du futur soit aussi installée. Mais en réalité, j'étais en train de penser beaucoup à la chose, à la matérialité même du mur, de ce qui parvient à séparer, et au fait que dans la matière qui est utilisée aussi apparaît la fonction qu'il est capable d'accomplir. Et ça m'a, dans toutes les diapositives que j'avais montrées, j'étais vraiment fasciné par tous les différents murs qui sont présents, y compris les murs même des espaces d'exposition. Mais les murs aussi de l'objet initial qui est cette tour improbable du médecin spécial. C'est un mur qui n'a pas du tout une droiture. Ce n'est pas le mur d'un maçon. C'est un mur vraiment. Peut-être qu'au début, dans les fondements, c'était un mur qui était vraiment posé pierre par pierre, comme font les vrais maçons. Mais à la fin, ce sont des murs qui sont vraiment très expressionnistes, qui ont vraiment des dynamiques improbables. Et ça correspond très bien à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui était annoncé dans les textes sur le fait que c'est un mur, c'est un bâtiment inhabitable. Mais je pensais surtout à ça parce que ça me fait... je l'associe à quelque chose qui arrive en Colombie, chez moi, où les apparitions comme ça, verticales, qui ne sont pas légales, qui sont faites par les gens, ce sont souvent des apparitions qui sont faites par des vrais maçons dans les quartiers populaires et qui tiennent très bien dans la hauteur et sont parfaitement habitables, sauf que les terres, normalement, qui sont destinées aux quartiers populaires, ce sont des terres elles-mêmes instables. Donc, en fait, le grand risque que ça représente, c'est que ça va produire des enfoncements dans la terre. Donc, mais en réalité, pour juste parler un peu avec vous, c'est ce que j'aimerais bien, c'est savoir si les murs, c'est quelque chose qui vous interpelle, les différents murs, toutes les différentes composition des murs qui sont vraiment des murs faits avec des pierres différentes ou des murs qui sont faits, ou des murs avec des laitons ou des murs avec juste du ciment. Ce sont des choses qui apparaissent, qui sont visibles, qui interpellent quand on se promène dans la ville.
Oui, enfin, il y a toute une histoire à écrire sur l'arrivée du mur. À l'époque coloniale, les parcelles n'étaient pas séparées par des murs, par exemple, mais juste par des fleurs. Et petit à petit, donc les murs sont apparus et ils deviennent de plus en plus hauts. Donc il y a toute une histoire d'insécurité perçue ou réelle. Enfin, ce que les Quinois appellent la bunkérisation de la ville. C'est la ville comme bunker contre l'extérieur, etc. Mais donc, enfin, plus largement, pas seulement les murs, pour moi, dans le travail qu'on a fait ensemble, l'infrastructure matérielle était importante à documenter et penser autour de cela. Dans mon premier travail, le point de départ, en fait, était complètement différent. Nous, ici, enfin, certainement en Belgique, les autorités, quand ils pensent la ville, ils croient vraiment dans la force de la chose construite, hein, pour renouveler un quartier, c'est par le construit, le bâti qu'on fait du social engineering, en quelque sorte. Et dans une ville comme Kinshasa, avec ses millions d'habitants, bon, c'est vraiment une architecture zéro, ou une infrastructure qui ne fonctionne pas comme on pense qu'une infrastructure urbaine doit fonctionner. Et donc là, le point de départ était comment... C'est quand même une ville aussi, même s'il n'y a pas ce côté infrastructurel. Mais qu'est-ce qui fait que la ville soit ville? Et en fait, c'était la question autour de la ville comme espace mental, l'imaginaire urbain, etc. Et dans ce livre-ci, on ne s'est pas plongé dans cet imaginaire, mais on est resté en quelque sorte sur à l'échelle de la ville et le paysage, la topographie même, comme la montagne et le trou, mais le matériel aussi, c'est des bâtiments, certains endroits où à chaque fois la ville se fait, où la vie urbaine se construit ou se façonne. Et donc on appelle ça, on y pense comme en termes d'acupuncture urbaine. Il y a nos aiguilles analytiques, moi avec ma plume, lui avec sa caméra, on cherche un endroit, ça peut être un bâtiment colonial qui aujourd'hui est utilisé de toute autre manière, ou un cimetière, ou juste un trou dans la rue, ou un champ, ou n'importe. Mais là où il y a quelque chose qui se passe, et où on voit comment la vie urbaine se développe en quelque sorte. Et donc après... après toutes ces petites ethnographies, mais il y a moyen, comme dans, avec les guildes d'acupuncture, bon, dès qu'on le met quelque part, bon, ça renoue cet endroit à d'autres endroits dans le corps. Et avec ça, avec nos ethnographies à nous, on peut aussi construire en quelque sorte une narration sur le plan de sur l'échelle de la ville, ce qui est déjà un problème en termes méthodologiques aussi. Comment écrire une ethnographie d'une ville aussi vaste, aussi grande, donc quelle ligne prendre, quel choix faire. Et donc c'est comme ça qu'on a fait. Et en vraiment regardant aussi certaines infrastructures, mais le trou comme infrastructure, mais aussi le corps humain comme infrastructure de base de la ville, l'infrastructure coloniale, etc. Et donc, et comment relier toutes ces choses construites ou pensées ou rêvées et les relier dans une narration, en quelque sorte. Je m'excuse, je dois, comme j'ai tout réfléchi et écrit en anglais, à chaque fois il faut que je. Le français me vient difficilement.
Moi, je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que monsieur a dit par rapport au mur. En fait, moi, je viens du Congo-Brazzaville. J'ai vécu à Brazzaville et ensuite j'ai vécu à Luanda aussi. Donc, j'ai vu un peu cette notion de mur et de tour en même temps. À Brazzaville, en tout cas, c'est. C'est comme vous étiez en train de dire, c'est des sortes de barrières qu'on crée, en fait, finalement, pour s'isoler et se protéger un peu du voisin, en fait. Les murs sont très hauts. En fait, on ne voit finalement pas la parcelle. C'est comme ça qu'on appelle chez nous. On dit pas de villa, on appelle ça une parcelle. Et ça permet de créer une pseudo-sécurité, mais du coup, ça attire aussi tout ce qui va être lié au vol. Par exemple, on a ces sortes de murs qui ont des barbelés. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, il y avait un mur qui était immense, qui faisait au moins 15 mètres. Je me demandais toujours ce qu'il y avait derrière. Et par rapport à cette notion de tour qui est directement liée à la politique, au Congo-Brazzaville, en fait, à Brazzaville surtout, vous pouvez pas construire une tour comme ça sans que vous ayez, on va dire, à peu près l'accord du député du quartier. Parce que ça voudrait dire que vous êtes socialement plus grand que lui et ça pose des questions de niveau social qui vont entrer en conflit. Et que moi je retrouve un peu là, dans ce projet-là. Et pareil, à Luanda, on a cette notion de mur qui est présent, mais qui en même temps, dans la vie de tous les jours, va disparaître parce que on va aller chez le voisin, on va aller discuter avec lui, on va manger avec lui, il va nous inviter finalement chez nous, chez lui. Enfin, que je retrouve très bien dans ces projets-là, en tout cas, que je voulais juste ajouter, c'est une petite digression.
Oui, oui, mais c'est important. Et puis, comme vous dites, la question devient une question sur qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, par exemple, et l'espace public. Qu'est-ce que ça veut dire, public, et comment on fait public dans la ville, comment on se met ensemble, où sont les possibilités de créer un vivre ensemble, une collectivité, etc. Donc ce sont des questions très importantes, et à travers un mur, par exemple, on peut aborder ces questions-là.
Oui, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une forte présence chinoise à Kinshasa. Je me demandais comment ça se traduisait en impact urbain. Est-ce qu'il y a des quartiers chinois, africains ? Enfin, est-ce que vous pourriez en parler un petit peu en termes de modèle urbain ou typologie urbaine, d'expérience urbaine même ?
Je pense que en termes de présence chinoise, c'est effectivement... Moi, c'est plutôt au Katanga, à Kinshasa. En quelque sorte, c'est aussi c'est une communauté qui est beaucoup plus là pour la question d'exploitation en fait, minière et se retrouve très rapidement dans les camps liés au secteur minier que dans la ville elle-même, quoi. À part quelques casinos qui, justement, naissent de plus en plus, qu'on peut apercevoir dans l'espace urbain. Mais la plupart de temps, ça reste une communauté assez enfermée et beaucoup plus qu'on retrouve plus dans les secteurs miniers que dans la ville. Quoi.
Mais la présence chinoise est due à une chose, les matières premières. Ils sont là pour, dans le monde minier, donc certainement au Katanga. Mais en retour, comme Samy a dit tout à l'heure, donc après 1960, après le départ des Belges, il n'y a plus jamais une urbanisation formelle du pays. Et avec l'arrivée de Kabila, et les premières élections présidentielles en 2006. Donc le président a présenté une plateforme et donc des choses qu'il allait réaliser en étant président élu. Et c'était les 5 chantiers, une espèce de Marshall Plan pour le Congo. La première fois qu'il y avait un projet comme ça depuis 1960, et les 5 chantiers, les chantiers étaient infrastructures, aussi éducation, agriculture, etc., mais surtout infrastructures urbaines qui allaient être mises en place et construites et payées par les Chinois. Qui devait déjà en quelque sorte payer pour tous les minéraux qu'il prenne du pays. Et donc voilà, cette présence chinoise, parfois c'est pas une communauté très visible dans la ville, puisqu'ils vivent entre eux vraiment dans des gated communities très souvent, dans des hôtels. Donc ils sont pas là physiquement, mais leur présence est très 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 ils sont très présents à travers ces modèles d'infrastructures, ponts, hôtels, hôpitaux qu'ils sont censés mettre en place. Et donc en partie ce qu'on voit, même ça vient de la Chine. Ce sont des imaginaires chinoises aussi qui se vendent, c'est photoshopé, c'est des maisons qui n'existent pas, mais tout le monde a ses posters chez lui dans son salon, ça fait rêver d'un ailleurs. Donc c'est des posters, et Samy a fait une composition de cela, mais donc des rêves d'un ailleurs, une existence urbaine meilleure, disons, qui n'existe pas pour autant, mais qui fait rêver. Et donc les Chinois, ça représente ça aussi. C'est fait imprimer en Chine et vendu partout en Afrique, pas seulement au Congo. Mais c'est vraiment un genre qui est venu avec les Chinois, en quelque sorte. Et tous ces tours, ces nouvelles villes, etc. Donc les animations, les images, l'esthétique de tout cela vient non seulement de Dubaï ou de Doha, mais aussi du Pearl River Delta, des endroits comme Shenzhen et à Shanghai, etc. Donc, dans cela, la présence chinoise est très, très forte.
J'espère que j'arrive à être assez clair. J'ai des difficultés à m'exprimer avec un français assez pénible qui est le mien. Mais bref, deux choses. La première, c'est une constatation, c'est de savoir qu'il existe un facteur cheval aussi en Afrique, quoi. Un homme qui rêve, une utopie, de la poésie, quoi. Une très belle chose qui nous accommune déjà dans un grand monde tout petit. Mais la deuxième chose qui est plus difficile et dans laquelle vous m'avez beaucoup aidé tout à l'heure, pendant que j'y pensais, vous avez un peu décodé ma pensée sans évidemment l'imaginer, c'était l'image des termitaires. Et c'est là que la complexité de ma question. Mais vous l'avez rendu visuel, c'est-à-dire comme sur une ardoise à l'école, le bon et le pas bon. Alors j'ai dit bon naturel, c'est-à-dire l'animal qui a un gros esprit communautaire, comme le termite, ils travaillent tous ensemble, qui construit du sous-sol, qui du sous-sol dit au niveau spirituel quelque chose de noir loin du haut. Donc, plus vous ne pas tomber dans le côté de l'apologie chrétienne, on dit le diable et le ciel, mais toute ethnie confondue, l'image peut tenir, ou toute chrétienté, ou toute religion confondue, ou spiritualité confondue peut tenir. Donc, bon et pas bon, l'idée de, et vous le représentez bien, le belge et l'autochtone, et qui travaillent bien ensemble, mais la colonisation se fait sous des principes. Péniblissime, on va dire. Donc, moi, autant qu'Italien, je suis fier de dire que On a pris des claques en Érythrée, en Libye, on est rentré tout de suite. C'est une des choses, une des peu de choses pour lesquelles je suis fier d'être italien, parce que ça peut marcher. Malheureusement, beaucoup d'autres pays, ils ont arrivé à leur but, mais faisant quoi? Celles que les termitaires font beaucoup mieux que les hommes. Je vais creuser à leur seul et propre avantage. Donc j'arrive à ma question. Est-ce que toute ethnie confondue, bien conscient que l'Afrique est énorme, et donc microcosme Kinshasa, Kenya, Zaïre, Kenya, et la grandeur du pays, est-ce qu'il y a des ethnies qui peuvent représenter cette rage, cette viol due au fait qu'on a creusé là où il ne fallait pas, qu'il ne fallait pas aller prendre quelque chose qui était intouchable pour s'enrichir et empeuvrir le pays? Comment on peut faire l'exemple en architecture entre le tout creux, la mine, et le tout haut, la montagne? Les deux choses sont naturelles et naturelles. Voilà, je ne sais pas si je suis arrivé à m'expliquer, mais la question est-ce que les ethnies, ils ont ce ressenti encore? Est-ce qu'il y a cette viol qui est toujours présent au-delà de la présence occidentale en Afrique? Je dis au niveau spirituel. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère.
Non. Non, je ne sais pas très bien où vous voulez en venir. Mais...
Je veux dire, la géométrie, inévitablement, ne pouvait pas être variable. Il y a un excès. On a creusé là où il fallait laisser les choses telles quelles. Et les montagnes sont toujours là. On a violé un paysage et les ethnies payent de ça. La ruralité n'existe plus parce qu'il y a l'utopie du tout haut, du tout magnifique. Voilà, je voulais dire, est-ce que les autochtones sont en ressentiment par rapport à quelque chose qui est spirituel, qui a été violé? Voilà. Et à partir de ça, tout est faux. Tout est faux. Tout sera faux pour toujours. Voilà.
Là, je vous comprends. Ouais. Ben écoute, Samy a fait un film, on a travaillé dans cet endroit ensemble, à Fungurume, qui est une région minière où il y a vraiment il y a énormément de cuivre. Et donc on a passé un peu de temps chez un chef de terre local. Et donc pour ce Sangha, c'est l'ethnie en question qui habite dans cette région, leur identité est très liée à ces montagnes. Donc toute l'histoire est portée par ces montagnes qui ont chaque montagne a un nom, est habitée par un esprit, etc. Et donc maintenant, toute cette région, ces 200 et quelques montagnes ont été achetées il y a 10 ans de cela par des Américains, il y a 2-3 ans ça a été revendu aux Chinois. Et donc petit à petit, ces compagnies minières sont en train de raser, de faire disparaître ce paysage, ces montagnes, une par une. Et avec ça aussi, l'identité de ces gens, puisque ça représente pour eux non seulement une mémoire, une histoire, etc., mais leur être à eux. Et donc on a travaillé autour de cela. Et dans le livre, il y a un chapitre autour de cette question et dans un film.
Moi, personnellement, j'ai du mal avec le discours du noir, finalement, qui peut avoir une utopie. Enfin, ça me pose problème. Je pense que il y a beaucoup de... Enfin, on pourrait parler notamment de Pasolini et de cette passion pour l'archaïque. Je pense que c'est déjà dépassé, ces choses-là. Après, il faut plutôt penser sur... que l'on parle des migrations précoloniales, ça passe aussi par des formes de rencontres, de formes d'extension, des formes d'expansion. Sauf qu'effectivement, la colonisation va arrêter ces formes d'expansion qui ne sont plus. Autant qu'on va retrouver des définitions entre des formes de reconnaissance de part et d'autre des frontières, comme on l'a dit, mais il faut plutôt voir ça, donc, comme je le disais depuis le début, qu'il faut voir ça dans la continuité. Ce qui est aussi problématique encore aujourd'hui, c'est que, quel que soit que la colonisation se soit retirée, mais le pouvoir économique ou la décision des valeurs, des produits et tout ça, ça reste quand même un sérieux problème. Et que ces politiciens qui sont en train aussi de pouvoir jouer leur jeu, enfin, ils sont dépendants de ces bourses, de cette bourse et de toutes ces choses-là. Donc il y a toujours cette forme de dépendance-là. Que ce soit l'Italie, a une histoire coloniale, il faut aussi qu'elle l'étudie. Donc...
Merci beaucoup.